Bien entouré autour de la table, David Revaud-Dallon, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Rédacteur en chef politique au JDD, bonsoir à Gilles Martin Chauffier. Rédacteur en chef et éditorialiste à Paris Match, bonsoir à Alexandre Chauveau.
Bonsoir.
Du service politique d'Europe 1. Semaine marquée surtout par ce que nous craignons et qui s'est avéré authentique à partir de janvier, sans doute des coupures d'électricité, mais des coupures organisées. Le gouvernement le promet, ça n'arrivera pas d'un coup. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement sur BFM TV, c'était jeudi matin.
Personne ne va se retrouver sans courant, à un moment donné, sans avoir été averti que ça risquait d'arriver. On n'est pas dans un film catastrophe en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Donc on regarde pour que dans chaque situation, on puisse avoir des moyens d'agir qui soient adaptés et proportionnés. Ce qu'on est capable de dire aux Français, c'est qu'on sait déjà que dans le mois de décembre, dans lequel on n'est pas encore entré, ça n'arrivera pas.
Voilà, ça n'arrivera pas, dit Olivier Véran, et il y en a qui se marrent déjà dans le studio. Alors je continue parce qu'on a beaucoup de choses à voir avec les sonores et après je vous donne la parole. Des coupures tournantes, maximisées, optimisées, prévues. Le réseau électrique s'adapte et jongle. Il s'agit donc plus seulement des lave-linges et des frigos, il y a aussi le problème des terminaux de carte bleue ou encore tout simplement du téléphone portable. Laurent Pietschasik, le président du directoire de RTE, hier matin également sur France Info.
Si d'aventure on en arrivait à des coupures tournantes, certaines antennes de téléphonie mobile pourraient ne plus être alimentées. Alors là, il y a plusieurs solutions qui sont en cours de montage. La première, c'est le 112, puisque le 112 est un numéro universel. Il attrape l'antenne relais la plus proche. Et en ce moment, je sais que le gouvernement travaille avec Enedis sur des cartes pour qu'il y ait la plupart du temps une antenne relais en service près de chez vous. Il peut y avoir des cas, notamment dans les milieux très ruraux, dans lesquels il n'y a qu'une antenne relais qui serait susceptible d'être coupée. J'insiste sur le susceptible de. Et donc dans ce cas, bah, en fait, cette circulaire, elle demande au préfet de trouver des solutions locales. Et c'est un dialogue entre la distribution qui gère les petites poches et le préfet pour discuter des poches qui sont coupables et qui ne sont pas coupables. Parce que l'objectif, c'est bien d'anticiper des difficultés qu'on pourrait rencontrer. Et en fait, on se prépare maintenant pour limiter les inconvénients chez les Français.
Voilà, et à ces coupures tournantes, la Première ministre répond, Elisabeth Borne, dans le Tarn hier au micro européen de Benjamin Péter.
Ce que je dis d'abord, c'est qu'on fait tout pour éviter des coupures, qu'on s'y prépare depuis des mois, notamment, vous savez, en remplissant nos stocks de gaz, en diversifiant nos approvisionnements, en s'assurant qu'EDF va au plus vite pour remettre en service les réacteurs qui sont arrêtés pour maintenance, aussi en renforçant notre sobriété, hein, c'est le plan sobriété qui avait été annoncé il y a quelques semaines, et quelque part on a une partie de la réponse tous entre nos mains, c'est-à-dire que si on baisse tous nos consommations d'énergie, c'est bon pour le pouvoir d'achat de chacun, c'est bon pour la compétitivité des entreprises, et en même temps ça évitera d'avoir ce que vous mentionnez, c'est-à-dire un moment où on aurait insuffisamment de production d'électricité par rapport à la demande.
Voilà, un problème, une solution, a l'air de dire Elisabeth Borne. Oui, mais voilà, ce sont quand même des millions de Français qui vont être concernés. C'est ce que rappelle le patron de RTE.
Ces coupures temporaires programmées, elles concernent la plupart du temps quelques pourcentages de la consommation française. Donc ça peut aller jusqu'à quelques millions de Français.
D'accord.
C'est déjà beaucoup. Mais si on fait tous les gestes, ce sera beaucoup moins.
Réponse de la bergère au berger cette fois-ci, on prévient, on s'organise et comme ça tout va bien. On vous dit que tout va bien.
Dans les instructions, la circulaire qui a été adressée au préfet, on demande évidemment de se préparer à toute éventualité. La réflexion que nous avons eue avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est de se dire que si jamais sur une école on est informé à l'avance, donc en particulier la veille, qu'il peut y avoir une coupure d'électricité, on ne souhaite pas accueillir des enfants dans une école où il n'y aurait pas d'électricité. Donc on préviendrait la veille les parents pour éviter d'accueillir des enfants dans des écoles sans électricité. C'est des questions d'éclairage, mais aussi on peut avoir des questions d'alarme incendie. Et donc dans ce cas-là, il n'y aura pas école une matinée.
Est-ce qu'on peut envisager du coup aussi des annulations de trains ?
Je vous confirme que ça fait partie aussi du travail qu'on a demandé à nos grands opérateurs, en particulier la SNCF, en lien avec les préfets. Clairement, si jamais il doit y avoir des coupures, évidemment, on ne fera pas partir des trains avec le risque qu'ils se retrouvent arrêtés en pleine voie. Donc on prendra les précautions nécessaires pour ne pas avoir des voyageurs arrêtés en pleine voie.
Bon, vous l'avez entendu, s'il n'y a plus d'électricité, il n'y aura pas école. S'il n'y a plus d'électricité, il n'y aura pas de train. Mais ce n'est pas grave. Un dernier truc et pas des moindres, car tout le monde est d'accord pour dire que si l'on voulait à l'époque la fin progressive du nucléaire, il fallait peut-être s'organiser autrement. Il fallait pallier avec le renouvelable. Et ça, bah, c'est pas gagné. C'est ce que dit en substance, encore une fois, le patron de RTE.
C'est vrai que nous sommes contraints de prolonger la centrale de Saint-Avold parce qu'on manque d'autres moyens de production. Et donc ce manque des autres moyens de production, c'est pas que l'EPR qui est en retard, mais ça dépend aussi du fait que bah, la France a été trop lente sur les énergies renouvelables pendant beaucoup d'années, et que s'il y a 15 ans on avait décidé d'accélérer comme on est en train de le faire, on aurait plus d'éoliennes offshore, plus d'éoliennes sur terre et plus de photovoltaïques. Et aujourd'hui ça nous aiderait. Donc on paye aussi une forme de lenteur dans les énergies renouvelables en France.
Voilà donc cette longue introduction, messieurs, à nos débats. Je pensais que c'était utile que vous ayez, surtout nos auditeurs, tous les éléments de cette semaine qui a été longue en annonces et multiple en annonces. Qu'est-ce qu'on retient de tout cela ? J'ai entendu Gilles-Martin Chauffier tout à l'heure éclater de rire à l'annonce d'Olivier Véran. Alors expliquez-moi votre fou rire.
Ben, c'est pas... J'ai l'impression qu'il ne tire jamais les leçons de rien. Ils nous ont annoncé il y a quelques semaines qu'il n'y aurait pas de coupure. Finalement, il y aura des coupures. Ils nous avaient annoncé autrefois qu'il n'y aurait pas de pénurie de masques, il y a eu des pénuries de masques. Ils nous avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de pénurie de carburant, il y a eu des pénuries de carburant. Ils devraient commencer par dire, on n'annonce jamais qu'il ne va rien se passer. Je veux dire, ils ne tirent pas les leçons de ce qui se passait il y a 6 mois ou il y a 1 an. Donc ça m'inquiète beaucoup.
Il n'était pas dans la même posture, il était ministre de la Santé, maintenant il est porte-parole du gouvernement. Donc
il est
chargé de la parole.
Il est chargé de la parole, il devrait réfléchir à la façon dont on l'a produit en public. Et je me demande à quoi ça sert d'avoir tous ces conseillers autour d'eux et toute cette communication gigantesque, et même carrément, paraît-il, pour aider à la communication, parfois même McKinsey, si c'est pour se planter à chaque fois. Et ce qui est inquiétant, je trouve, c'est qu'il nous annonce que s'il fait froid, il y aura des coupures. Mais en fait, c'est beaucoup plus grave que ça, parce qu'à un moment, il a dit il y aura des millions de Français.
Mmh. Et en disant que c'est pas très grave.
Oui, c'était une petite partie, c'était un incident. C'est énormément de gens, des millions de Français. Et moi, je dis s'il fait froid, on aura des coupures, et puis s'il fait très froid, on aura des engelures, parce que on a l'impression que c'est de plus en plus grave. Et donc, après, on pourra revenir sur les raisons pour lesquelles on est arrivé là. C'est-à-dire, effectivement, on a un gouvernement successif qui n'a pas cessé de plâcher le pour et le contre en ce qui concerne aussi bien le développement des énergies renouvelables que le nucléaire.
David Redalon, pour le JDD, qu'est-ce que vous retenez ?
D'abord, pour réagir à ce qui vient d'être dit, il est possible que le gouvernement fasse encore une autre erreur, puisqu'il est possible qu'il n'y ait pas de coupure. Cette hypothèse est encore dans les tuyaux, si j'ose dire. Les tuyaux,
ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on fait peur et plus peut-être
alors,
que...
Alors voilà, ça, c'est la bonne question. En réalité, le gouvernement, il a un vrai défi stratégique ou de communication politique sur cette affaire, parce qu'il sait depuis des mois que cette éventualité Elle est là, elle plane au-dessus de nos têtes, si j'ose dire. Il prépare le dispositif, parce que c'est quand même, vous en avez un petit peu, enfin, les sonores que vous avez passées l'ont un peu évoqué, mais c'est un vrai casse-tête logistique. Il faut gérer non seulement les services d'urgence, services de sécurité, police, gendarmerie, hôpitaux, les trains, les écoles.
On a l'impression de découvrir l'Amérique, mais s'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus, vous avez entendu Elisabeth Borne, les alarmes incendies, les alertes incendies dans les écoles.
Et même plus basiquement, on parlait des téléphones portables, des télécommunications, ça veut dire que si vous avez un problème, les services d'alerte ne peuvent, les services d'urgence ne peuvent pas être
prévenus. Même pas le 112. Hein.
Donc,
les feux de circulation à Paris.
À partir de là, qu'est-ce que fait le gouvernement ? Il est effectivement sur une corde raide entre le fait de prévenir les gens et d'alerter les gens sur ce qui se profile à l'horizon et le fait de ne pas créer de panique et donc d'alimenter une forme de psychose. C'est exactement, vous avez raison de comparer ça avec ce qui s'est passé avec la pénurie d'essence, parce que c'était exactement le cas. Le problème, c'est que c'est hélas Olivier Véran, ça c'est un problème de casting politique,
ça tombe sur lui.
Bah, qui était ministre de la Santé, qui a fait effectivement cette fausse annonce sur les masques et qui, il y a quelques semaines, est revenu en donnant effectivement le sentiment de rejouer ce remake politique avec l'affaire des pénuries d'essence. Et aujourd'hui, il annonce l'électricité. Donc, c'est vraiment pas de chance. Maintenant, il faut, à la décharge du gouvernement, il faut quand même dire que c'est une dimension stratégique extrêmement compliquée. Il faut effectivement préparer les gens à cette éventualité, à tous les scénarios, et en même temps ne pas créer une forme de panique, etc. Mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il se passe, quel que soit le scénario retenu, et d'ailleurs le scénario que le gouvernement ne maîtrise pas, parce que oui, vous avez raison, il y a toutes les raisons logistiques pour lesquelles on va manquer de courant, mais il y a aussi une dimension que le gouvernement ne maîtrise absolument pas, c'est la dimension météo, la météorologie. On ne sait pas exactement, on prévoit que l'hiver sera rude, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure. Donc, à partir de là, quel que soit le scénario, ce qui est certain, c'est que si ça se passe mal, et malgré tous ces efforts, de la même manière que ça se passe mal sur l'inflation, malgré tous les efforts et tous les boucliers tarifaires déployés, et les dizaines de milliards dépensés par l'exécutif, l'addition politique sera évidemment présentée à l'exécutif à la fin des courses.
Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Sur les prémonitions d'Olivier Véran, je partage la prudence de mes collègues. Sur les délestages, on voit quand même que c'est une hypothèse qui est, enfin, au départ, ce qui devait être une hypothèse devient quand même de plus en plus probable. Et une fois qu'on a dit tout ça, ça participe quand même de cette idée que la France est en déclin. On envisage l'hypothèse qu'il y ait plus de, qu'on ferme des écoles parce qu'il n'y a plus d'électricité, qu'on supprime des trains parce qu'il n'y a plus d'électricité. On l'a dit et redit, mais je crois qu'il faut, on l'aura jamais assez dit, il faut quand même rappeler le virage sur le nucléaire qui a été provoqué par François Hollande et acté par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, malgré tous les artifices...
Avec une première ministre qui, à l'époque, était à la manœuvre.
Oui, j'ai revu récemment des archives de Brune Poirson, à l'époque, qui se vantait de la sortie du nucléaire. Emmanuel Macron, malgré les artifices de communication, il restera comme le président qui a fermé Fessenheim et rouvert Saint-Avold. Donc ça, c'est quand même terrible pour lui.
En tout cas, qu'il l'a acté.
Voilà. Et dans la hiérarchie des priorités, on voit que c'est la semaine prochaine que le texte sur les énergies renouvelables arrive à l'Assemblée. On se demande pourquoi il y aura au début de l'année prochaine un texte sur la programmation du nucléaire. On se demande pourquoi ça n'a pas été inversé, parce que depuis le discours d'Emmanuel Macron à Belfort en février pendant la campagne, il ne s'est absolument rien passé. Et dans les textes, on est encore en phase de, si je puis dire, de dénucléarisation. Donc il y a aussi cette question-là qui se pose.
Cette question-là qui se pose, alors que sur le nucléaire, ça revient quand même au galop, alors que finalement, il y avait un consensus, même à droite, hein, à un moment donné, on se dit bah, finalement, pourquoi pas. Et il y a ce gap, en fait, entre la fin du nucléaire, qui avait été décidé quand même, une sorte de ventre mou, et puis ce qui devrait remplacer le nucléaire, c'est de l'air renouvelable. Mais là, on n'y est pas du tout. On y est... Oui, pardon, Gilles Martin Chauffier.
Le problème de ce gouvernement, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a fait, même dans des problèmes d'énergie, qui sont des politiques qu'on doit mener sur des dizaines d'années, il a fait du en même temps. Mais il a fait du en même temps du bout des doigts. C'est-à-dire qu'au début, il était très anti-nucléaire. Ensuite, il est devenu très pro-nucléaire. Il a dit qu'on en serait à 14 centrales. Puis on est tombé à 6. Et en même temps, il a aussi dit qu'il allait développer les éoliennes, tout ça, mais il a fait ça mollement.
C'est-à-dire qu'en fait, il a pas dû en même temps, parce qu'il l'a fait successivement. Pour le coup, c'est plutôt du zigzag.
Parce que finalement, il y a aussi des centrales éoliennes qui ont été faites, puis il a fait l'EPR, et en fait, à force de mettre des œufs dans tous les paniers, il a mis pas assez d'œufs. Il a mis un peu d'eux partout et rien ne marche.
Ça, c'est un truc de banquier, avec... vous savez, c'est la diversification des placements. Hein. C'est-à-dire qu'on
Ça serait mal une catastrophe dans ce cas, dans ce cas précis.
Alors, bien sûr, il y a ces choix sur le nucléaire qui expliquent cela. C'est incontestable. François Hollande, Macron avait d'abord semblé suivre la politique de dénucléarisation de François Hollande, qui, je le rappelle, avait été dealé avec ses alliés écologistes avant même la campagne présidentielle de 2012, c'est-à-dire dès la fin 2011. Il y a aussi l'état du parc qui est, pour le coup, un autre problème stratégique, ou plutôt logistique. Il y a la question d'une forte consommation. Alors, il semble que le gouvernement, pour l'instant, est plutôt satisfait de la façon dont la population française répond à ses demandes de sobriété, puisqu'il semble qu'il y a quand même une petite baisse de la consommation. Et puis,
mais surtout une hausse de la température.
Et il y a aussi, bien sûr, la crise ukrainienne et la guerre en Ukraine et ses conséquences industrielles et donc notamment énergétiques. À partir de là, c'est vrai que cette espèce de combo, cette combinaison de facteurs est en train d'exploser au visage du gouvernement. Et c'est vrai que les oppositions ont beau jeu. Je pense notamment à Mme Dati, qui le disait dans les colonnes du JDD il y a quelques semaines, que la politique du gouvernement se décidait à l'aune des températures. Ce qui est sévère, mais ce qui est un peu inévitable comme critique, puisque, comme dans la fable de La Fontaine, Macron et Borne se retrouvent fort dépourvus quand la bise est venue.
Ce qui est, merci pour ces citations littéraires, Charles David.
Il faudrait juste préciser qu'en tout et pour tout, en France, aujourd'hui, il y a 10 000 éoliennes. On a un pays de 551 000 km², il y a 10 000 éoliennes. C'est-à-dire qu'il y a une éolienne tous les 50 km².
Pardon, j'ai oublié cette
totalement... le niveau. Ils disent qu'ils ont fait un gros travail sur les renouvelables. C'est faux. Moi, je suis ravi, je déteste le nucléaire. Ils ont mal entretenu le nucléaire, mais j'aurais voulu qu'ils développent massivement le nucléaire.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une sorte de ventre mou entre la fin du nucléaire, programmée, qui n'a pas été assumé jusqu'au bout, et la construction des renouvelables, dont font partie bien sûr les éoliennes.
Oui. Au catalogue des explications, il manquait effectivement cette dimension-là, la montée en puissance, pas assez puissante justement,
mais parce que,
des renouvelables.
Je parle sous votre contrôle à vous trois, il y a quand même un débat sur l'éolienne en France.
Il y a un vrai débat.
On n'a pas fait de référendum, mais faisons un référendum sur les éoliennes, je ne suis pas du tout sûr du résultat.
Il y a un vrai débat politique effectivement, et certains partis, bien sûr le Rassemblement National a érigé ça en cheval de bataille de sa politique écologique. C'est un point important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens, notamment dans les territoires ruraux, qui protestent contre ces installations parce que ça fait beaucoup de nuisances sur le littoral, etc. Maintenant...
ça prend de la place, c'est-à-dire que si
ça
vous mettez ça
place,
au milieu d'un champ,
est-ce que ça produit suffisamment ? Maintenant, le Rassemblement National a beau jeu de critiquer ça parce que pour le reste, pour sa politique et ses propositions énergétiques et écologiques, on ne voit pas grand-chose venir.
Alors, on revient au galop sur le nucléaire.
Il y a des référendums sur les éoliennes, puisque vous le proposez. Moi, je propose de demander dans les villes où on veut installer une centrale nucléaire qu'on fasse un référendum.
Pareil.
On verra s'il y a tellement de villes qui ont envie d'avoir une centrale nucléaire à leur porte.
Il y a eu aussi tout un nucléaire bashing qui fait que les gens, dès qu'on leur dit nucléaire, sans savoir même de quoi ils retournent, sont effrayés en pensant tout de suite à Tchernobyl, etc. Alors qu'en réalité,
Fukushima, beaucoup plus tôt, plus récemment dans l'histoire.
Alors qu'en réalité, toutes les centrales nucléaires en France sont soumises à des processus de sécurité qui font que, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'incident, d'incident majeur. Oui.
Il faut même personnel de dans un état bien moins pire que ce qu'on écoutait.
Souvenez-vous, dans l'actualité récente, je ne vais pas retrouver l'année, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des fuites de réacteurs. Et là, tout d'un coup, c'est tout un territoire qui est bouclé, périmétré. Il y a les services d'urgence qui arrivent et puis ça s'arrête.
C'est
très, très compliqué.
C'est justement toutes les normes de sécurité qui font que quasiment la moitié de notre parc nucléaire est à l'arrêt. C'est parce que dès qu'il y a la moindre fissure, dès qu'il y a la moindre chose dans un réacteur, et effectivement, tant mieux, et tout s'arrête. Et tout est mis à l'arrêt
par
prudence. Donc,
il n'existe pas dans l'histoire de l'humanité une industrie qui n'ait pas eu un jour un accident. Et quand il y aura un jour un accident dans le nucléaire français, ce sera une catastrophe nationale.
Mais bien sûr.
La France est toute petite.
Mais
les États-Unis peuvent se permettre. L'Union soviétique pouvait se permettre avec une centrale tous les 600 km, pas nous.
Mais ce que vous dites est tout à fait vrai. C'est-à-dire, en gros, on offre l'éolienne ou la centrale nucléaire, c'est en gros la peste ou le choléra. Quoi. Faites votre choix.
Alors il y a un troisième choix.
Alexandre Chauveau n'est pas d'accord avec moi.
Non, je...
c'est ni l'un ni l'autre n'est sympa.
Fukushima, c'est le résultat d'un séisme que personne ne pouvait prévoir. Le Japon, il y avait un très bon dossier dans Le Point, le Japon revient au nucléaire. Tchernobyl, ça a été le résultat d'une gestion catastrophique du régime communiste et soviétique. En France, il y a encore une fois une autorité de sûreté.
Oui.
Avant la fermeture de Fessenheim, cette autorité avait indiqué, écrit noir sur blanc, que Fessenheim était encore dans un état suffisant qui pouvait lui permettre de fonctionner encore pendant des années. Donc, pour moi, on ne peut pas mettre sur le même plan le nucléaire et les éoliennes.
Et vous avez la Pologne qui vient d'acheter la construction d'une centrale nucléaire aux Américains d'ailleurs, et on n'est pas très loin de Tchernobyl.
La gestion française, on peut en dire et en prendre et en laisser. Je rappelle qu'on avait le meilleur système de santé du monde jusqu'à il y a 4 ans. On a aperçu qu'une fois qu'il a été mis à l'épreuve du Covid, que meilleure santé du monde se cassait complètement la figure. Je ne pense pas que forcément toutes les centrales nucléaires françaises sont entre les mains d'une équipe absolument à l'abri. L'erreur humaine est fatale un jour ou l'autre.
À l'épreuve du Covid et à l'épreuve de l'inflation, parce que comme vous avez les toubibs aujourd'hui, les médecins généralistes qui vous disent, moi j'ai 25 euros la consultation, en Roumanie c'est 45 et c'est pas remboursé, et avec 25 euros j'ai 10 euros net à la fin et je peux pas engager de secrétaire, vous avez quand même un mal-être dont on va parler encore les prochaines semaines. David Revaudalon,
pour juste sur votre métaphore médicale ou épidémique de tout à l'heure, la peste ou le choléra, je rappelle qu'il y a un troisième choix, je ne sais pas si c'est Ebola ou la syphilis, mais le charbon, regardez notre voisin allemand. C'est un Saint-Avold, mais c'est un choix délibéré de notre voisin allemand de continuer à pratiquer une énergie qui est extrêmement polluante et bien plus dangereuse, finalement, en moyenne que le nucléaire aujourd'hui en France.
18h23, on clôt ce chapitre sur l'énergie. Dans un instant, on part aux États-Unis avec Emmanuel Macron dans la semaine politique. À tout de suite.